Bien, nous allons dans le deuxième livre des rois, chapitre 5. Nous retournons, c'est notre troisième fois, dans l'histoire de Naaman, le Syrien. Et nous avons vu la providence de Dieu, nous avons vu la religion de l'homme, et ce matin nous voulons voir la grâce de Dieu. Et je dois dire, la grâce de Dieu, je vais préciser, dans l'histoire de Naaman, parce que la grâce de Dieu, on est là pour toute la semaine, n'est-ce pas? Donc on va se laisser guider par cette histoire. Donc on va lire les 18 premiers versets pour nous rafraîchir la mémoire. 2 Rois 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Et c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur ? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en servira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosterne dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Et c'est la parole de Dieu. Nous revenons donc à Naaman, troisième fois. Et une fois encore, il faut nous limiter parce que le sujet est vaste, la grâce de Dieu. Qui peut en parler, même adéquatement, ne serait-ce que sur le plan du temps? Comme on l'a vu, cette histoire nous enseigne la providence de Dieu. Nous avons vu donc qu'en vertu de son statut de créateur, tout appartient à Dieu et il a le droit de faire ce qu'il veut avec toute sa création, moi y compris. C'est ça la souveraineté de Dieu. Non seulement il contrôle toute chose, mais il le fait pour atteindre un objectif, pour accomplir un dessein. Et ce but, chose surprenante, ne se centre pas sur moi, ni même sur mon salut ou mon bien-être. Le cœur du dessein de Dieu est sa propre gloire qu'il manifeste dans la gloire de son Fils, le Rédempteur. Et si je peux le dire, mon salut n'est qu'un produit dérivé dans le dessein de Dieu. Il aurait pu décider tout autre chose, n'est-ce pas? Il aurait très bien pu décider autrement. Par exemple, le psalmiste écrit « L'homme te célèbre même dans sa fureur » et Dieu aurait pu décider d'utiliser ma fureur, ma rébellion, mon opposition pour manifester sa gloire. Il le fait dans beaucoup de monde, comme nous avons lu. Pour ceux qui prennent des notes, c'est le psaume 76, verset 11. La colère de l'homme n'est pas un obstacle à la gloire de Dieu, mais c'est un outil, un instrument qu'il utilise. Et nous avons vu que la providence de Dieu est très liée à sa souveraineté. Dieu peut pourvoir, peut faire ce qu'il veut parce qu'il est souverain, absolument souverain. L'histoire de Naaman nous enseigne aussi sur la religion de l'homme. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. La religion de l'homme, c'est-à-dire ses efforts pour se réconcilier avec la divinité. L'être humain nous enseigne, l'être humain est un être tordu en raison de sa rébellion contre son Créateur. Il s'est séparé de la source de la vie. Et donc, il est tordu. Et on voit cela partout, partout. Surtout en nous-mêmes. Cette rébellion a au moins deux effets. Premier effet, elle a provoqué une rupture dans la relation avec Dieu. Le Dieu dont l'amitié duquel l'homme a tant besoin. Ce Dieu-là est maintenant un ennemi courroucé, un ennemi implacable en raison de sa sainteté. La rébellion de l'homme l'a placé dans une incapacité totale de se réconcilier. Ça, c'est le deuxième effet. Il est absolument incapable de se réconcilier, comme nous avons vu la semaine dernière. C'est l'offensé qui doit ouvrir la porte. L'homme est maintenant ennemi, et parce qu'il s'est séparé de la source de la vie, il est mort. Et on voit cela continuellement dans notre vie, n'est-ce pas? Il est mort, et il est sourd, et il est aveugle. À tous les niveaux. Il ne pense plus qu'en termes de lui-même. C'est pour cela que le fait que le dessein de Dieu ne soit pas centré sur lui-même est quelque chose de très humiliant, n'est-ce pas? Il pense en termes de lui-même, seulement en termes de lui-même, et en termes de la terre. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il peut saisir. Dieu a cessé pour lui d'être l'objet légitime de son adoration. Il devient seulement ce Dieu-là, maintenant devient pour l'être humain naturel l'instrument de son bien-être. Si Dieu fait ce que je désire, alors Dieu est bon. Ça, c'est la vision de l'homme maintenant, qui, hélas, très souvent, imprègne la vision du croyant. La souveraineté de Dieu est absolue. Et sa providence est inexorable, inéluctable. Elle doit se passer. Et nous allons le voir, nous le voyons avec Naaman. Par ailleurs, l'homme est dans une incapacité totale d'entrer en relation avec ce Dieu, qui est pourtant le centre de son être. C'est pour ça qu'il y a toutes ces divinités, tous ces cultes, n'est-ce pas? Et c'est à ce point qu'entre en jeu ce que nous voulons examiner aujourd'hui, à savoir la grâce de Dieu. Parce que Dieu est absolument souverain, absolument saint, absolument juste. Et l'homme est complètement enfoncé dans son péché, incapable. Donc il y a un fossé, un abîme, comme on a vu, n'est-ce pas? Et la grâce de Dieu est ce qui passe au-dessus de cet abîme. Étudions cet aspect, la grâce de Dieu que nous voyons dans l'histoire. Étudions cela en gardant à l'esprit le fait que nous contemplons le Dieu de grâce. C'est une réalité. S'il n'y avait pas de Dieu de grâce, il n'y aurait même pas de discussion au sujet de la grâce de Dieu. Nous n'étudions pas simplement la grâce de Dieu, mais le fait que Dieu est un Dieu de grâce. Premier point, c'est notre question. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Parce que dès que nous parlons de grâce de Dieu, le danger nous guette. Et ce danger, c'est de chausser notre casquette de théologien. Parce que nous savons ce qu'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Oui, il est possible de donner toutes les réponses correctes à notre question. Mais cela peut se faire sans prendre en compte que la grâce est la nature même de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Nous avons des voisins qui ont des petits lapins qui sont adorables. Alors, les petits lapins sont très adorables, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Surtout quand ils viennent vers vous et puis qu'on peut les caresser. Mais le scientifique, il peut examiner et étudier le lapin bien plus que cela, n'est-ce pas? Il peut disséquer le lapin. Alors, nous nous réjouissons dans le petit lapin, et le scientifique se réjouit aussi dans toute sa connaissance au sujet du lapin. Mais nous avons un petit être qui bouge, qui nous donne du plaisir, alors que le scientifique, il a un cadavre. Et c'est un peu le danger dans lequel on peut être, n'est-ce pas? Non, la grâce, c'est la nature même de Dieu, c'est son cœur. Il est le Dieu de toute grâce, il est miséricordieux, il est riche en bonté. Et c'est là qu'on voit tout le dessein de Dieu qui se manifeste, n'est-ce pas? Ainsi, tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait est grâce. Et cette grâce se manifeste dans le cadre de sa création. On parle du dessein de grâce. Et cette grâce se manifeste face à la rébellion de l'être humain, sur l'arrière-plan sombre et terrible de la rébellion de l'être humain. Dieu est souverain et il est tout-puissant. Et l'être humain s'est placé dans une incapacité coupable devant Dieu. Ce n'est pas une infortune, ce n'est pas non plus quelque chose dont on est victime. Non, c'est une incapacité coupable. L'être humain, vous et moi par nature, l'être humain est désormais incapable de plaire à Dieu. Il est placé sous sa colère, et il est voué à la perdition. Voilà l'état dans lequel on est. Et ça n'est pas quelque chose de très populaire aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'entend très peu. C'est donc un constat d'échec et de condamnation irréversible. Si l'être humain, si rien ne se passe pour l'être humain, il va dans la perdition. Un point, un trait. Cela est plus grave encore que je l'imagine, car ma rébellion met en fait en échec le dessein de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé l'être humain pour la perdition, n'est-ce pas? Alors d'une manière technique, d'une manière mécanique, on pourrait dire, ma rébellion, en fait, et beaucoup de gens posent cette objection, ma rébellion met en échec ce que Dieu a prévu. Et les gens diront, mais pourquoi est-ce qu'il y a l'enfer? Pourquoi est-ce qu'il y a la mort? Et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que des choses terribles arrivent alors que Dieu est bon? Et ils mettent en doute la bonté de Dieu. Donc, vous voyez un peu la situation, c'est quelque chose qui en fait touche au plus profond. Mais, et c'est encore là la réponse, Dieu est le Dieu de grâce. Et c'est pour cela que nous pouvons en parler. Il va au-delà de l'impossibilité. Il fournit pour l'homme le moyen de réconciliation que celui-ci ne peut pas fournir. Il fournit un sauveur qui réconcilie. Souvent, souvent, même dans les églises évangéliques, malheureusement, on parle d'un sauveur, mais personne n'est perdu. On peut dire que la grâce est la solution quand il n'y a plus de solution. Dieu fait quelque chose en faveur de ceux qui ne le méritent pas. Et c'est pour cela que le salut ne demande rien du tout à l'être humain. On peut dire encore beaucoup d'autres choses, mais voyons la grâce à l'œuvre dans l'histoire de Naaman. Et cela nous permettra de nous limiter, mais aussi d'être beaucoup plus pointus. Un point, notre deuxième point, la grâce avant la grâce. Alors, tout de suite, vous détectez que je parle d'une manière humaine. La grâce avant la grâce. Parce que nous avons probablement tendance à penser à la grâce quand la petite Israélite parle à la femme de Naaman et lui indique la solution, n'est-ce pas? Ou alors quand Naaman reçoit le message du prophète. Ou encore, on pense à la grâce de Dieu quand Naaman ressort des eaux du Jourdain et il est guéri. Est transformé. Mais cela commence bien avant. Dans sa grâce, Dieu veut que la petite fille soit chez Naaman pour mentionner le prophète en Israël. Et donc, il y a des choses qui doivent se passer avant la grâce, c'est-à-dire avant là où je pense que la grâce se manifeste. Avez-vous jamais réfléchi à tout ce que Dieu a fait pour qu'un jour, il touche votre cœur à salut. Tous les rouages qu'il a mis en mouvement pour accomplir son dessein en vous, des choses qui remontent combien de générations? Dans nos études des Actes, on a pensé à Timothée, on pensait encore mercredi dernier à ces anciens d'Éphèse, n'est-ce pas, à qui Paul passe le témoin. Et ils ont passé le témoin, ils ont passé le témoin. Et comment le savons-nous? On a entendu l'Évangile aujourd'hui. Est-ce qu'on pense à cela? Est-ce qu'on réfléchit à cela? Ce qu'il peut provoquer dans le monde. On a souvent dit qu'il peut abandonner un pays, une nation, pour une âme. Mais pensons aussi à ce qu'il peut provoquer dans ma vie. Même des choses douloureuses, même des choses terribles, dans le seul dessein de toucher le cœur de quelqu'un un jour qu'il a décidé d'amener vers lui. Et pas nécessairement quelqu'un que je vais connaître. Je me souviens, alors que je préparais, je me souvenais d'un ami très très cher, un croyant que je respectais énormément. Un homme, même si on avait mis un pistolet sur sa tempe, il n'aurait jamais pu prêcher. Pourtant, un homme de Dieu. Et le Seigneur l'a utilisé pour la conversion d'une amie. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait passer sous les roues d'un camion. Notre Dieu n'est pas humain, n'est-ce pas? Il est bien plus. Il est bien plus. Pourquoi? Parce que ce soir-là, il a touché le cœur de cette femme qui maintenant enseigne des autres. Vous voyez? Donc veillons à ce que nous parlons. Nous ne parlons pas d'un Dieu à l'eau de rose, si je puis dire. La grâce de Dieu agissait pour Naaman dès le verset 2 de notre passage. Quand les troupes de Syriens sont parties de Damas pour faire du mal. Nous le verrons un peu plus loin. Un autre point, la grâce de Dieu suit des voies étranges. Nous avons vu l'autre jour que la providence de Dieu est souvent incompréhensible. On va voir un certain parallèle ici. La grâce de Dieu suit des voies étranges. Qui aurait pensé que Dieu était déjà à l'œuvre dans sa grâce quand les Syriens conçurent leur raid, quand ils ont commencé à préparer, quand ils fourbissaient leurs armes? Qui aurait pensé que déjà Dieu agissait dans sa grâce quand ils arrachaient la petite fille à sa maison, à sa nation, pour l'emmener en esclavage? Oui, ces hommes, les Syriens, agissaient, suivaient les élans de leur nature mauvaise, et ils répondent de cela. Mais Dieu accomplissait son dessein de grâce. Il existe une manière romantique, à l'eau de rose, n'est-ce pas, de contempler la grâce divine. On trouve une raison pour tous les éléments et on voit qu'en fin de compte, tout s'est bien terminé. Mais la grâce de Dieu agit de manière plus mystérieuse, de manière moins humaine, en fait. Il y a des fois, on n'arrive pas à comprendre. Et c'est totalement impossible de comprendre. La petite Israélite, quand elle était arrachée de sa maison, de ses parents, n'est-ce pas, elle n'avait pas reçu le scénario pour comprendre ce qui se passait. Quand les soldats se sont saisis d'elle, et ce n'était pas fait en douceur. Attention, ces gars-là, ce n'étaient pas des enfants de cœur, comme on dit. Elle ne pouvait pas comprendre, ce n'était pas possible. Naaman n'était pas un nom qu'elle connaissait déjà. Pensons à Étienne, un homme puissant en évangélisation, quelqu'un qui ne trouvait pas son égal pour dans les discussions. Et nous pouvons voir, nous-mêmes, nous pouvons voir aisément comment Dieu a utilisé sa prédication et sa mort pour se saisir de Saul de Tarse, un homme qui a probablement accompli et enseigné des choses dont Étienne était incapable. Nous pouvons le voir. Mais quand les blocs de pierre s'abattaient sur lui, Étienne n'en savait rien. Il n'a jamais vu Paul l'apôtre. Et souvent, nous ne savons pas le pourquoi du comment de ce qui nous arrive. Alors la question se pose, n'est-ce pas? Quel est le secret? Quel est le secret? Qu'est-ce que ce passage peut nous enseigner? Qu'est-ce qui fortifiait la petite Israélite de sorte qu'elle parle à sa maîtresse? Qu'est-ce qui fortifiait Étienne? Et là, nous le voyons dans le passage des Actes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut me fortifier? Ceux qui les habitaient n'étaient pas tant ce qui leur arrivait, chose incompréhensible, douloureuse, sans signification vraiment, pour eux. Qu'est-ce qui les soutenait? C'était le fait que Dieu est le Dieu qu'il dit être, le Dieu souverain, et que ce Dieu souverain est le Dieu de l'alliance de la grâce. C'est pour cela que la petite Israélite parle du prophète. Veillons à cela, mes amis, avec une grande jalousie. Regardez dans la bonne direction. Ce dont j'ai besoin n'est pas tant toutes les capacités pour comprendre, mais la puissance de la grâce de Dieu pour me soumettre à sa volonté, dans la certitude qu'il fait toutes choses bien, même quand il suit des voies étranges. Donc, même si je ne comprends pas, l'important c'est, est-ce que je connais? Est-ce que je connais? Et bien entendu, je ne connais que parce qu'il me connaît. Donc la grâce suit des voies étranges. Et veillons à ne pas nous tromper de cible. Un autre point. La grâce ne prend pas en compte qui je suis ni ce que je fais. La grâce ne prend pas en compte qui je suis ni ce que je fais. Et tant mieux, dit l'homme pécheur, tant mieux. Naaman ne mérite pas d'être guéri. C'est un Syrien, c'est un païen. Il fait partie des gens du dehors, de ceux qui n'appartiennent pas, n'est-ce pas? En plus de cela, il est le chef de l'armée de Syrie. Il est payé et il est occupé pour imaginer des moyens de sécuriser sa nation, notamment en s'attaquant au peuple d'Israël et en affaiblissant le royaume d'Israël. Mais la grâce ne prend pas cela en compte. Jésus lui-même le dit, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de lépreux en Israël à cette époque-là. Beaucoup de lépreux, des gens plus démunis, des gens qui étaient, étant israélites, membres de la communauté de l'Alliance. Mais le Seigneur continue en disant, « Cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. » Luc 4, 27. La grâce, l'élection et la souveraineté de Dieu. La grâce ne fonctionne pas selon le mérite. Nous le disons. Il est impossible d'acheter la grâce de Dieu non plus. Elle ne se mérite pas, elle ne s'achète pas. Naaman avait voyagé jusqu'en Israël et il avait ses cadeaux, il avait en fait le paiement, n'est-ce pas? On a vu les, je ne sais plus combien de talents d'argent, des tas de sicles d'or, il y avait ses vêtements de rechange qui étaient en fait plutôt des costumes, hein, on dirait. Il est avec ses cadeaux, mais cela ne compte pas. C'est la mauvaise devise. Vous pouvez faire tout le bien que vous pouvez. Ça, c'est normal, c'est ce qu'on doit faire. Vous pouvez faire tout cela, et cela ne vous approche en rien de la grâce. Rien du tout. Souvent même, cela peut vous en éloigner si vous vous reposez dessus pour être accepté. Nous avons vu l'histoire du riche. Comme dit un chanteur, le riche qui n'a pas de nom. Vous avez remarqué cela? Il pensait qu'il avait tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Mais non. La grâce ne tient pas compte de ce que nous faisons. Elle ne tient pas compte non plus de ce que nous ne faisons pas. Naaman, le Syrien, n'entend pas le message de la grâce. Il retourne. Il va rentrer à Damas, lépreux. Mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Et donc, il ne peut pas. Il ne fait pas ce que Dieu dit de faire. Non, la grâce ne tient pas compte de cela. Et voilà que ses serviteurs lui parlent. Ou plutôt que Dieu lui parle par ses serviteurs. Sa nature orgueilleuse et charnelle l'empêche de faire ce que la grâce de Dieu a dit. Si Dieu tient compte de ce que Naaman fait, ou si Dieu tient compte de ce que Naaman ne fait pas, cet homme n'a aucune chance. Mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Et cela nous amène à un autre aspect de la grâce divine. Donc c'est un nouveau point. La grâce de Dieu obtient ce qu'elle vise. La grâce de Dieu réussit toujours. C'est pour ça qu'il est ridicule de lutter contre la grâce de Dieu. Il y a des moments où le croyant désespère de la grâce de Dieu. Dans son orgueil déguisé, il voit tous ses échecs, toutes ses imperfections. Et donc, il dit, mais comment est-ce que je peux être chrétien? Il sait dans sa tête que ce n'est pas une question de mérite. Mais il est dans l'angoisse parce qu'il ne mérite pas. Et je parle du croyant. Et combien sont ainsi? Quelle pauvre grâce humaine! Il y a dans l'Église, il y a en moi, beaucoup de manque d'assurance rempli d'orgueil. Et il est temps de nous en repentir et de nous en détourner, de dire à cette fausse modestie ce que Jésus dit au diable, « Arrière de moi !» Refusez d'entendre. Par nature et dans les élans de sa chair, l'homme réfléchit au salut en termes de faire, faire, toujours faire. On dirait aussi, dans les milieux religieux, ne pas faire. Tout au long, la grâce du salut déclare « c'est fait ». Il n'y a plus rien à faire. Vous avez démérité de la bonté de Dieu avant même votre naissance. Par le fait même que je nais être humain, j'ai déjà démérité. Mais la grâce de Dieu était à l'œuvre avant même la fondation, la création de cet univers. Rappelez-vous de Jésus-Christ, prédestiné comme un agneau, comme un sacrifice pour le péché, avant la fondation du monde. Je pense que c'est ce que Paul, en quelque sorte, veut dire que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Un autre point, nous avons plusieurs points là, aujourd'hui. On casse avec la tradition, n'est-ce pas? La grâce de Dieu est impossiblement facile. La grâce de Dieu est impossiblement facile. Dans sa recherche de la réconciliation, comme nous avons vu la semaine dernière, l'homme imagine toutes sortes de choses et il est prêt à faire ce qui est difficile au plus haut point. Et les serviteurs de Naaman avaient bien compris ça. Ils disent, mon maître, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, hein? Tu n'aurais pas eu de problème. Pour le roi d'Israël, la chose était impossible. Pour Naaman, et il fallait toutes sortes de rituels, et il était prêt pour cela. Et nous savons de quoi il retourne. Nous avons connu ses voies, peut-être même nous les connaissons encore, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut se surveiller sans cesse, n'est-ce pas? Chaque soir, essayer de voir si on a bien respecté, et ensuite. Et nous le voyons tout autour de nous. Les hommes sont prêts à faire les choses les plus difficiles pour la promesse la plus fumeuse de salut. Mais la grâce de Dieu n'est pas comme cela. Qu'y a-t-il de plus simple que d'aller se plonger 7 fois dans l'eau? Et la rivière n'était pas loin. Rien n'est plus simple. Et c'est là le problème, car en quelque sorte, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et en plus, remarquez, le prophète a dit « va te plonger ». Il n'a pas dit « va te frotter » jusqu'à ce que la peau soit nettoyée, n'est-ce pas? Non, non. Tout est donné, que ce soit les instructions, la manière, le lieu. Tout est dit. La grâce de Dieu est facile. Et l'homme n'aime pas cela. Il lui faut faire quelque chose, aussi petite cette chose soit-elle. Est-ce que la grâce ou la puissance de la grâce vous échappe parce que c'est trop facile? Parce que c'est impossiblement facile? Nous avons vu dans le passage avec l'homme riche, n'est-ce pas? Ce que Abraham lui dit est facile pour les frères. Ils n'ont qu'à écouter ce qui est annoncé dans la synagogue tous les sabbats. Quelle est la réponse de l'homme? Elle est vraiment frappante. Non, Père. Non, Père. Pas ça. Il y a quelque chose de mieux à faire. Non. Il lui faut faire quelque chose. Et c'est la question qui se pose. Est-ce que je passe à côté de la grâce à cause de cela? Est-ce que je suis trop riche en moi-même? Parce que suite à cette parabole qui nous a été lue, Jésus dit, en fait, il est impossible à l'homme d'être sauvé par lui-même. C'est plus facile pour un riche, et nous sommes riches en nous-mêmes. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et Jésus ne parlait pas d'une porte à Jérusalem, là. Non, ça, c'est les libéraux qui nous amusent avec ça. Non, non. Essayez de faire passer un chameau par. Essayez de faire passer déjà le fil. À mesure que les années viennent, ça devient de plus en plus difficile, n'est-ce pas? Dans le temps, Wendy me demandait de le faire, mais maintenant, c'est même sans espoir. Sans espoir. Alors, un chameau. Non, Jésus est simplement en train de dire, c'est impossible. C'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et c'est un paradoxe. La grâce qui a coûté énormément à Dieu, et c'est pour cela qu'elle est facile, cette grâce, en fait, elle ne me coûte rien. Elle ne me coûte rien, et c'est pour cela qu'elle m'est difficile. C'est pour ça que par nature, elle m'est impossible. C'est ça le paradoxe, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de nous humilier devant Dieu, parce que sa grâce est impossiblement facile. Nous avons besoin de toute la puissance de son esprit pour même entendre le message. Un autre point, la grâce est pleine de compassion. Ça, c'est une chose qui est importante. Et ici, je veux aborder un point qui va désamorcer beaucoup de questions. J'ai senti déjà dans nos discussions les 2 dernières semaines qu'il y avait des questions. Alors, on va en désamorcer une, là, au moins. Vous avez vu à la fin de notre passage que Naaman a une requête devant Élisée, n'est-ce pas? Il veut qu'on lui donne une charge de 2 mulets de terre d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans la terre d'Israël? Et en lisant cela, on peut bien se demander où en est Naaman? Est-ce qu'il est guéri? Est-ce qu'il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il est transformé? Il ne semble rien avoir compris. Et dans un sens, c'est vrai, il ne comprend rien. Et si vous êtes lucide avec vous-même, vous ne manquerez pas de dire, je suis Naaman. Même après des années, même après des années, Naaman est un homme transformé. C'est un homme qui est sauvé par la grâce quand il revient vers le prophète. C'est un homme qui dit, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre. En présence de tous les gens qui le suivaient, tous les Syriens, n'est-ce pas? Un homme transformé. Et ouvrons une petite parenthèse, il est intéressant de remarquer que le premier signe de la transformation de Naaman est la générosité. Il veut donner quelque chose au prophète. C'est intéressant, n'est-ce pas? Refermons la parenthèse. Mais que dire de cette requête pour de la terre? Eh bien, tout simplement que Naaman, petit bébé dans la grâce, est toujours un homme. Toujours un homme qui pense comme un homme. Toutes choses sont nouvelles en ce qui concerne son cœur, en ce qui concerne sa relation avec Dieu, en ce qui concerne sa destinée. Naaman est en route vers le ciel. Mais il vit encore dans un corps de chair qui ne peut pas comprendre la grâce à moins que ça lui soit révélé par la parole de Dieu. Et il faut qu'il grandisse là. Bien que réconcilié, il réfléchit encore en termes de divinité géographique. L'Éternel, c'est le seul Dieu pour toute la terre, mais c'est le Dieu d'Israël encore. Vous voyez, il n'a pas encore compris que Naaman, maintenant, c'est l'Israël de Dieu. Loin de lui jeter la pierre et de le condamner pour cela, parce que franchement, je me vois en Naaman, je veux me concentrer sur la compassion de Dieu qui ne le reprend pas. Dieu ne tombe pas comme une tonne de briques sur pauvre Naaman. « Mais tu n'as rien compris, mon pauvre, quand même. Il faut que tu ailles dans l'école des prophètes maintenant. » Non, non, il faut qu'il retourne à Damas. Nous ne lisons pas non plus qu'il a reçu les deux mesures de terre. Un autre élément montre la transformation de Naaman et la grande grâce de Dieu. Nous le voyons dans sa mention des occasions où il doit accompagner son maître dans son culte. Le roi de Syrie adore une idole qui s'appelle Rimmon. Et le roi de Syrie est âgé. Et donc, quand il va, il s'appuie sur le bras de Naaman. Là, on voit que Naaman, c'est vraiment un homme spécial pour le roi de Syrie. Et quand l'autre se prosterne, ben Naaman doit se prosterner. Et il l'a fait depuis tout le temps. Mais maintenant, il a un problème, et c'est pour ça qu'il en parle au prophète. Deux choses ressortent. Premièrement, la divinité de Damas n'est pas divine. Ça n'a jamais posé problème à Naaman, jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la grâce de Dieu. Donc se prosterner devant quelque chose qui n'est pas divin, c'est un acte coupable, un acte qui exige le pardon. Naaman n'a jamais pensé à cela avant. Et deuxièmement, Naaman sait désormais que l'Éternel est un Dieu qui pardonne. C'est tout l'objet de sa requête. Il peut demander ça parce qu'il sait. Or, à l'époque comme aujourd'hui, les divinités des hommes sont tout sauf des entités qui pardonnent. Il faut passer son temps à faire des choses difficiles pour les calmer. Qui a enseigné bébé Naaman? La grâce de Dieu, tout simplement, la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'on peut parler de Naaman comme quelqu'un de transformé, comme un croyant. Cela se voit. Voici, toutes choses sont nouvelles, toutes les choses anciennes sont passées. Alors bien sûr, il a besoin d'apprendre des choses, mais il sait. Et la parole nous dit, l'apôtre nous dit, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Vous êtes recouvert d'une onction. Et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et Jean continue en disant, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et pourtant, dans sa lettre, il enseigne. Il n'arrête pas d'enseigner. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est déjà là. Ça a été planté par l'Esprit de Dieu. Et on arrose et on met de l'engrais pour que ça grandisse, mais c'est là. La religion de l'homme, mes amis, est incapable de renouer la relation brisée. L'œuvre de la grâce réconcilie l'homme dans la vérité, lors même qu'il demeure des incompréhensions. Naaman voit de manière imparfaite, mais il connaît de manière parfaite. Et la connaissance qu'il a maintenant ne le quittera plus jamais. C'est la merveille, n'est-ce pas? Le croyant ne peut pas chuter en dehors de la grâce de Dieu. Notre dernier point. La grâce de Dieu est en un autre. Elle est située dans un autre. On a parfois un peu de mal à voir le lien entre l'histoire de Naaman et puis d'autres histoires dans l'Ancien Testament et l'évangile de salut, tel qu'on le trouve dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est clair. Parfois, Et on peut se poser la question, où se trouve Christ dans cette histoire? Bon, en fait, on l'a déjà vu, il est dans pratiquement tous les mots, tout au moins tous les versets. On a essayé de le relever, n'est-ce pas? Christ est là. Mais je me limiterai ici à un seul aspect, et on l'a déjà survolé la dernière fois, un aspect qui montre le cœur de l'Évangile. Au verset 12, Naaman pose inconsciemment une question très pertinente. Il dit, les fleuves de Damas, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Et certainement, aux yeux des hommes, les fleuves de Damas ont un avantage, parce que le Jourdain à l'époque, il était très modeste, c'était parfois rien de plus qu'un marigot, c'était de l'eau assez stagnante, n'est-ce pas? Pourquoi alors Naaman doit-il aller se plonger cette fois dans le Jourdain pour être guéri plutôt que dans les fleuves de Damas? Pourquoi est-il circoncis de cœur quand il ressort de l'eau du Jourdain? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau du Jourdain? Une autre question, n'est-ce pas, qui nous taraude. Quelles sont les vertus magiques et merveilleuses de l'eau du Jourdain? Vous attendez à ma réponse, n'est-ce pas? En fait, il n'y a rien du tout. Les eaux du Jourdain ne sont pas spéciales. Probablement bien boueuses à l'époque. La réponse à notre question ne se focalise pas sur le cours d'eau géographique qu'on appelle le Jourdain, mais elle nous emmène plutôt vers les mêmes rivages, le même bord de la rivière, mais des siècles plus tard. Des siècles plus tard. Ce jour-là, un homme descend dans l'eau du Jourdain et il demande à Jean-Baptiste de recevoir le baptême de la repentance. C'était le baptême de Jean, n'est-ce pas? Baptême de la repentance. Il demande à Jean-Baptiste de le baptiser de ce baptême-là. Or, cet homme-là n'en a pas besoin. Il est le Fils de Dieu. Il n'a aucun péché. Il n'a même aucune conscience de péché. Jean-Baptiste lui-même objecte. Non, ce n'est pas toi que je dois baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Le seul homme dans toute l'histoire du monde qui n'a pas besoin de se repentir demande et insiste à se faire baptiser du baptême de la repentance. Et quand Jésus est plongé dans l'eau du Jourdain, il n'est pas purifié, il n'en a pas besoin, il est déjà pur quand il descend. Mais dans cette eau et par cette action, de manière symbolique, Jésus se charge du péché de son peuple. La culpabilité du péché de ceux que le Père lui a donnés est placée sur ses épaules. Il n'est pas pécheur. Il n'a pas de péché en lui. Il porte le péché. Et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il place ce péché sur la croix. Qu'il le détruise. Il est à la fois l'autel, il est à la fois sacrificateur, la sainte victime, le temple, la rédemption des siens, de ceux à qui Dieu donne la foi en Jésus. Et c'est alors sur cette croix qu'il ôte le péché, et pas seulement pour Israël, pas simplement pour ces Juifs qui ne l'étaient pas de cœur, mais aussi pour la condamnation de Naaman, le Syrien, celui à qui Dieu donne la foi par grâce. Et pas seulement lui, mais tous les élus du monde, tous les élus de l'histoire, et vous-même si la grâce s'applique à vous. Voilà la grâce de Dieu, telle qu'elle est. Comme nous l'avons vu, l'homme est un être religieux de nature. Il lui faut toujours faire, toujours plus. À l'opposé, la grâce de Dieu dit, c'est fait. Plus rien à faire. J'ai oint mon roi sur Sion. Rappelez-vous, psaume 2. C'est une chose inacceptable pour la chair. La grâce remporte la victoire sur la religion pour l'élu de Dieu. C'est-à-dire qu'elle obtient ce qu'elle a décidé d'obtenir. Naaman ne peut pas rentrer à Damas étant lépreux. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tout milite pour que Naaman rentre comme cela, mais ça n'est pas possible. Le dessein de Dieu était de le guérir et de le transformer et de donner un témoignage à la grâce sélective de Dieu. On voit aisément la grâce de Dieu agir dans le cas de Naaman. C'est assez clair, n'est-ce pas? Mais Naaman ne peut rien pour moi, ne peut rien pour vous. Il nous faut lever les yeux vers celui qui, en descendant dans les eaux du Jourdain, se charge des péchés de ceux qui croient en lui, qui vont croire en lui. Et ceux-là croient et vont croire en lui parce qu'ils s'enfoncent dans les eaux du Jourdain, parce qu'ils se chargent de leur péché. Et ce péché énorme, terrible, il l'emmène à Golgotha. Là, le substitut, celui qui a pris la place, il ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Dieu. Il ne le met pas de côté, hein? Il ne le met pas en suspens. Il ôte le péché de Dieu. Vous, dit l'apôtre Paul, qui étiez morts par vos offenses, c'est nous, n'est-ce pas? Et par l'incirconcision de votre chair, incapable d'entendre, il vous a rendu à la vie avec lui, c'est Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, que le Seigneur pardonne, que l'Éternel pardonne. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a éliminé, il l'a brûlé en le clouant à la croix. Colossiens 2. 15. Dieu donne la vie et le salut parce qu'il a fourni une victime, parce qu'il a mis au repos sa justice, parce qu'il a assouvi la colère de sa sainteté. Aucun fleuve ne peut purifier, pas même le Jourdain. Mais écoutez la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est une source, dit le prophète, qui est ouverte pour les pécheurs. Un autre a été donné. Dieu est satisfait. Alors, venons toujours dans l'obéissance de la foi et faisons ce que Dieu dit. Que le Seigneur ajoute sa grâce à sa parole et bénisse nos cœurs. Amen.